Am Bistro Matavox. In Ableck an die journalistisch Erbischt von der Vox.
Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à un nouvel épisode Am Bistro Matavox, le podcast de l'hebdomadaire Vox. Je m'appelle Maria Lorza Charalegui. On se retrouve aujourd'hui avec notre journaliste Fabien Grasser. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Fabien, tu es parti cette semaine à Birel, au sud d'Arlon, et tu y as rencontré un collectif de fermiers et de citoyens qui se mobilisent d'un côté pour s'opposer de l'autre côté à l'entreprise Ferrero, la multinationale et propriétaire d'une usine à Arlon, toute près d'une ferme, celle de Henk van der Heide. Quel est l'enjeu, Fabien ?
Alors l'enjeu, c'est-à-dire qu'il y a cette ferme donc, dans le lieu-dit qui s'appelle Birel, qui est au sud d'Arlon, qui n'est pas très loin de la frontière luxembourgeoise. Et donc c'est quelqu'un qui fait de l'agriculture bio depuis une trentaine d'années, et bon, qui est très amoureux de la nature aussi. Et donc l'an dernier, en 2024, la ville d'Arlon a présenté son nouveau schéma de développement. Et il apparaît dans ses plans, dans ce schéma, dans le schéma communal de développement, qu'il y a un de ses champs qui est juste en face de sa ferme, donc c'est un champ de 8 hectares, sur lequel pourraient être installées des infrastructures sportives communales. C'est communautaire pour la. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils veulent installer ce complexe sportif dans ce champ ? C'est parce qu'à Arlon, il y a une usine Ferrero qui demande à s'agrandir. Et une des possibilités de s'agrandir pour cette usine, c'est de prendre le stade de foot actuel, qui est donc dans Arlon. Et dans ce cas-là, le stade de foot sera déplacé sur sa colline. Le fait est que les plans de cette infrastructure sportive n'existent pas encore. Et quand la mairie est interrogée sur le sujet, elle dit oui, il n'y a rien encore qui est prévu. Mais effectivement, le schéma prévoit qu'on pourrait faire ça. Donc d'un côté, on a une mairie qui dit non, rien n'est prévu, mais ça pourrait se faire quand même. Et donc l'agriculteur en question, avec un collectif d'une vingtaine de citoyens, citoyennes, ont décidé de résister, de s'opposer à ce plan, à ce schéma de développement communal. Et donc, ils ont fait un certain nombre d'actions pour sauver ce champ.
C'est une résistance préventive, tu décris. Comment les citoyens s'y prennent-ils ?
Ouais, donc c'est effectivement comme ça qu'il faut le voir, et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que, bon, pour l'instant, il n'y a aucun plan, il n'y a rien qui est sur la table pour ce centre sportif, mais voilà, le terrain pourrait le devenir. Et donc, ils ont décidé, effectivement, de mener une action qui est préventive. Cette action, ça a été de transformer ce champ en verger conservatoire. Alors, c'est quelque chose qui existe en Belgique, je crois qu'il y en a une soixantaine, donc qui est soutenu publiquement. Hein. Le verger conservatoire, c'est quoi ? C'est le fait de planter des arbres rustiques, des arbres d'origine, des arbres fruitiers d'origine, donc c'est cerisier, pommier, prunier, poirier. Donc ça, c'est fait avec le pilotage du Centre Wallon de Recherche Agronomique, qui est à Jean Blou. Donc, d'une certaine manière, le fait d'avoir créé ce verger pourrait protéger la parcelle, puisque c'est quelque chose, ces vergers conservatoires, qui sont encouragés par les pouvoirs publics. Et sachant qu'à la fin, la décision finale ne reviendra pas à la commune, mais à la région wallonne. Et donc, c'est assez astucieux, en fait, d'avoir créé ce verger conservatoire. Il y a une seconde dimension qui est mémorielle et qui donne un peu une couleur plus politique à cette action. Alors, mémorielle, c'est-à-dire, en fait, ils ont baptisé chaque arbre du nom d'un résistant belge de la région, d'un résistant local de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi... d'un certain nombre d'activistes et militants environnementaux qui ont perdu la vie dans leur combat. Donc, un agriculteur français qui se battait contre les pesticides et qui est mort d'un cancer. Il y a un certain nombre de militants en Amérique du Sud qui ont été assassinés parce qu'ils s'opposaient à un certain nombre de projets. Donc, voilà, ce verger, il est à la fois conservatoire pour les espèces rustiques d'arbres fruitiers et mémoriel, puisqu'on leur donne le nom de résistants divers. Et ça aussi, c'est assez original. Il a été officiellement inauguré mi-juin, il y avait une petite fête, ils avaient fait grande ouverte à la ferme. Et donc là, il y avait tout un tas de militants, d'universitaires aussi qui ont participé. Il y a eu des conférences, il y a eu de la musique, il y a eu à manger. Et puis voilà, il y a aussi ce côté festif de cette résistance qui se met en place donc à travers un collectif qui s'appelle la Lézarde.
Une résistance qui se célèbre alors. Est-ce qu'il y a eu une réaction de la part de Ferrero ou de la commune?
Alors bon, la commune, on a essayé de moi j'ai essayé de la joindre, mais nous sommes un peu dans la mauvaise période. Les responsables politiques sont tous en vacances, donc personne pour répondre. Mais quand même, l'échevin à l'urbanisme avait répondu au mois de juin quand il avait été interrogé par la presse locale belge. Et donc il avait dit oui, il n'y a strictement rien de prévu, mais effectivement ce camp pourrait devenir un complexe sportif. Mais rien n'est prévu, ne vous inquiétez pas. Donc c'est très très contradictoire, très très paradoxal ce qu'il dit, c'est-à-dire que d'un côté il dit on va rien faire, mais voilà, il est prévu quand même d'en faire quelque chose. Du côté de Ferrero, j'ai essayé de les joindre, en tout cas la filiale belge. Je n'ai pas eu de retour, je n'ai pas eu de réponse. Maintenant, voilà, on est véritablement dans ce que dit un de mes interlocuteurs, un jeu de domino, c'est-à-dire Ferrero récupérait l'actuel stade de foot qui lui serait transféré vers là-bas. Donc c'est pas non plus Ferrero qui est directement en cause. Mais j'ai comme eu une interlocutrice donc d'une association belge qui s'appelle Terre en Vue et qui se bat pour une agriculture durable, biologique et qui fait aussi des achats de terres justement pour permettre à des agriculteurs de s'installer à bon prix. Et qui dit, mais voilà, dans ce cas-là, si effectivement, si c'est pour assurer l'agrandissement de l'usine Ferrero, ça sera à Ferrero de payer, de compenser, de trouver un autre plan, voilà, de travailler avec la commune sur ce sujet-là. Mais je n'ai pas eu de retour, effectivement, de Ferrero.
Le collectif, il ne vise pas que le champ à côté de la ferme de Van Heide. L'urbanisation s'extend dans toute la région, en effet. Et c'est au moins aussi en partie dû à des exploitants agricoles luxembourgeois. Que se passe-t-il?
Alors, il y a deux choses, hein. Il y a le fait que juste en contrebas de sa ferme, il y a un petit vallon qui s'appelle la vallée de Clairefontaine, qui est très très joli, très très bucolique, et qui va jusque, en fait, traversé par un ruisseau qui s'appelle la Clairefontaine, qui lui-même se jette dans l'Aïche, donc qui est la rivière frontalière entre le Luxembourg et la Belgique. Et on est vraiment tout près donc du Luxembourg. Et là, il y a un projet de quartier de construction de plusieurs dizaines de logements avec une route dans cette vallée. Donc là aussi, il y a une volonté de s'opposer, voilà, à une artificialisation des sols qui va croissante dans la région parce qu'il y a une pression immobilière, il y a une pression foncière du fait du Luxembourg, évidemment, où il y a ce déficit de logements et de terres. L'autre dimension de cette pression, c'est effectivement que les agriculteurs luxembourgeois achètent de plus en plus de terres en Belgique. Et ça crée des vraies difficultés pour les agriculteurs belges parce qu'ils n'arrivent pas forcément à s'aligner sur les prix. Les prix des terres agricoles sont libres en Belgique. Donc ça peut être vendu entre 20 et jusqu'à 50 000 euros l'hectare, quoi. Ce qui est absolument énorme. Évidemment, alors souvent, ce qu'on m'a dit, c'est que souvent, c'est des agriculteurs luxembourgeois qui ont vendu leurs terres au Luxembourg, soit pour de l'urbanisation, soit pour autre chose. Et qui en ont donc tiré un très très bon prix, compte tenu du prix du foncier au Luxembourg, et qui du coup ont des moyens bien supérieurs notamment à des jeunes agriculteurs belges qui voudraient s'installer et qui voudraient acheter des terres. Donc là, il y a effectivement cette pression foncière et immobilière, on la connaissait surtout immobilière sur la grande région du fait du Luxembourg, mais elle est aussi foncière sur les terres agricoles. Donc il y a un certain nombre de voix qui appellent à une meilleure régulation. Bon, les gens avec qui j'ai parlé, ça ne les dérange pas que ce soit des Luxembourgeois qui achètent les terres. Pour eux, ce n'est pas un problème de nationalité. Ce qu'ils voudraient, en fait, c'est que ces gens-là, s'ils achètent des terres au Luxembourg, c'est qu'ils viennent s'installer dans les fermes en Belgique. C'est-à-dire qu'ils n'achètent pas juste les terres et qu'ils les font exploiter par quelqu'un d'autre ou qu'ils y viennent une fois ou deux fois par mois, mais qu'ils s'installent réellement dans des fermes en Belgique. Sachant que la Belgique est confrontée au même problème que de nombreux pays, c'est-à-dire que les agriculteurs sont de plus en plus âgés, partent à la retraite et il n'y a pas de renouvellement en fait des agriculteurs. D'où effectivement la nécessité peut-être de voilà d'apporter une aide, enfin en tout cas de faire en sorte que les jeunes qui veulent s'installer puissent le faire à des prix voilà qui soient raisonnables et compétitifs.
En France, le prix est bien régulé.
Voilà, donc c'est ce que m'expliquait Françoise Oncet, qui travaille donc pour cette association Terre en Vue, et qui disait ce phénomène des achats des terres le long de la frontière luxembourgeoise en Belgique, c'est un phénomène qu'on retrouve le long de toutes les frontières. Et donc, elle citait l'exemple des agriculteurs belges qui, dans le nord de la France, qui vont acheter des terres dans le nord de la France. Donc, on est effectivement plus sur les départements du nord. Et il se trouve qu'en France, il y a un système, c'est le système des SAFER, qui régule les prix. Donc, elle donnait un exemple, une prairie pour pâturage en Belgique, dans la région frontalière de la France, ça vaut 20, 25 000 euros l'hectare, alors qu'en France, c'est régulé à 6, 8 000 euros. Donc, il y a vraiment c'est très, très avantageux pour eux d'aller acheter en France. Et voilà, donc ce n'est effectivement pas un phénomène qui est juste propre à la Belgique et au Luxembourg, c'est un phénomène qu'on retrouve le long de toutes les frontières, dit-elle, hein.
Au Luxembourg, tu avais interpellé le ministère de l'Agriculture à ce sujet. Tu as reçu des chiffres qui nous montrent que au Luxembourg, la surface agricole a diminué. Et c'est pour cela aussi que les agriculteurs passent et achètent des terres en Belgique.
C'est-à-dire que la surface agricole pour dire les choses honnêtement, elle a très légèrement diminué, hein. Elle est passée de, sur une période là de 10 ans, elle est passée de 123 000 hectares à 121 000 hectares. Mais quand on considère quand même qu'il y a toutes ces terres qui ont été achetées à l'étranger, là, quand je parle de 123 000, 121 000 hectares, c'est uniquement au Luxembourg. Mais si on ajoute les terres possédées par les agriculteurs luxembourgeois à l'étranger, on est plutôt à 133 000 hectares aujourd'hui. Donc effectivement, ça veut dire que des agriculteurs luxembourgeois vendent leurs terres agricoles et vont en acheter ailleurs. Pour quelles raisons alors est-ce que leurs terres au Luxembourg sont reclassées autrement? Il peut y avoir plusieurs causes. C'est ce que m'expliquait le ministère de l'Agriculture. Ça peut être pour le reboisement, ça peut être pour des chantiers temporaires, ça peut être de l'embroussaillement, et évidemment pour l'urbanisation, pour la construction de logements, pour des équipements urbains. Et donc, effectivement, il y a ce phénomène, se vérifie à travers les chiffres qui sont donnés par le ministère de l'Agriculture.
Merci beaucoup, Fayen. La semaine prochaine, le Vox partira en congé collectif. Le journal retournera alors la semaine du 18 août. Bon week-end et bonnes vacances à tous et à toutes.
Au revoir.
Dat wäret fir das Episode vun Am Bistro mat der Vox. Dese Podcast gëtt produzéiert vun der Wochenzeitung Vox an ze summen erwischt mam Radio Ara. Musik kënnt vun Throw an steht ënner enger Creative Commons Lizenz. Dir fand Am Bistro mat der Vox op dene gängegen Podcasting-Plattformen an op vox.lu. D'Vox ass auch aktiv op Twitter an op Facebook. Mir freneis iwwer der Likes. Dabei a Vox fand ihr all Freiden um Kiosk.